et Aînés Solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et Aînés Solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et Aînés Solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Toute première épisode de Les Têtes d'Hockey. Je suis en compagnie de Raphaël Côté-Rioux. Mon nom est Félix Duchesne. Salut Raphaël.
Salut Félix.
Et ça part. On est déjà parti sur cette premier show, premier épisode de Têtes d'Hockey. Et on va vous expliquer un peu comment ça marche, nous, les dimanches à 19h. Évidemment, vous l'avez compris, on va vous parler d'hockey. Justement, Raphaël Côté-Rioux, d'où ça vient cette idée-là de partir un podcast de hockey?
Écoute, deux amis qui parlent de hockey, qui sont passionnés.
C'est pas plus compliqué que ça.
C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Une place où parler de hockey sans prétention, mm-hmm. parler de hockey du présent, du passé, du futur.
Ouais.
Vraiment, c'est aussi simple que ça. Deux gars passionnés qui aiment le hockey, qui veulent en parler ensemble. Ça donne ça.
Parce que Tête d'Hockey, nous, on va voir ça d'un angle, comme tu l'as dit. On va mettre en contexte quand il va arriver certains événements, des échanges où finalement, on va vous expliquer comment c'est arrivé, pourquoi. Aussi, on va beaucoup s'intéresser aux recrues, évidemment. On veut savoir comment les équipes vont se construire, comment on va prévoir le futur avec les choix repêchage, entre autres, avec finalement, je viens de le dire, le développement des joueurs. Je pense qu'on va avoir pas mal de fun d'analyser ça et on a plusieurs angles à vous proposer, entre autres nos équipes préférées, mais on va pas en parler tout de suite, on va construire un peu de suspense. J'aurais envie de parler de finalement aussi comment est-ce que cette passion-là pour le hockey a commencé. J'irais peut-être avec finalement nos équipes parce que je pense que ça part de là, notre passion pour le hockey. Après ça, on pourra parler des sujets qu'on va aborder à Tête d'Hockey. On veut vous parler évidemment de la Ligue nationale beaucoup. Étant de Québec, on va parler bien sûr des Remparts, mais quand on va parler de la Ligue nationale, on va surtout s'attarder à deux équipes. Je commencerai par la tienne, Raphaël, pour que tu me présentes un peu d'où ça vient cette passion-là. Et c'est une équipe particulière parce que c'est pas celle qu'on pourrait. C'est pas celle à laquelle on s'attend.
Non, en effet, c'est un choix assez obscur, je dirais. C'est un choix assez obscur, je veux dire. Quand j'étais plus jeune, mon grand-père et ma grand-mère ont fait un voyage au New Jersey.
Ouais.
M'ont ramené une belle casquette des Devils du New Jersey quand j'avais 4 ans. Et puis c'est là que ma passion pour cette équipe-là a parti, les Devils du New Jersey. À l'époque, on se rappelle bien, il y avait Martin Brodeur.
Ben oui.
Selon moi, le meilleur gardien de but de tous les temps.
Okay.
Donc, un Québécois.
Les statements commencent déjà.
un Québécois auquel c'était facile de me rattacher.
Ben oui.
Puis jouer un style de hockey qui était très discipliné, très défensif, avec mm-hmm. une bonne défensive, Scott Stevens, hey, Scott Niedermeyer, Ken Danico. Mm-hmm. C'était vraiment une équipe disciplinée qui jouait un système que plusieurs diraient était plate, mais c'était quand même un excellent système qui leur a gagné plusieurs Coupes Stanley.
Une équipe de rough aussi quand même. Là,
ouais.
Discipliné, mais ça jouait dur.
Ça jouait du hockey défensif, ça jouait du bon hockey structuré, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché l'équipe, même dans les moments plus durs, puis ça continue aujourd'hui.
C'est ça que je pense qui est important de préciser en parlant de ton équipe préférée qui est les Devils du New Jersey, parce que certains pourraient dire « Ah, là, ils commencent à être meilleurs. Est-ce que c'est à cause de ça que tu commences à les suivre et tout? » Mais on a compris que ce n'est pas ça. Tu les suis depuis 2004 très fidèlement, d'ailleurs. Puis comme tu viens de le dire aussi, à travers des reconstructions, des fois difficiles, des mauvais échanges. Mais là, le vent tourne tranquillement pour les Devils. Comment tu trouves qu'ils vont depuis, mettons, les deux, trois dernières années?
Ben, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on a vu, c'est une reconstruction qui s'est faite. ça n'a pas été facile. Ouais. Les dernières années de Lou Lamoriello en tant que directeur général, ça a été beaucoup de boucher des trous. Ouais. Ça a été d'aller signer des joueurs qui étaient peut-être plus âgés pour essayer d'être performants puis de potentiellement faire les séries. Mais ouais. C'était pas ça la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'était de descendre ça, de reconstruire ça à zéro. Mm-hmm.
Sur des recrues.
Exactement. On a repêché des bons joueurs. On a une bonne fondation au centre avec Jack Hughes et ouais. Nico Hischier. Ouais. Mais c'est la bonne façon de le faire. De repartir à zéro, de reconstruire à zéro. Ouais. Puis, pas pour faire un petit jeu de mots plates, mais c'est un peu là que ton équipe s'en va aussi, la reconstruction.
Oui. Ben justement, ça fait une très belle transition, Raphaël. Moi, mon équipe, c'est bien évidemment le Canadien de Montréal. Je crois que je surprends personne en parlant de ce club qui, tant bien que mal, essaye de sortir d'une reconstruction qui dure des années et des années. Ça n'a jamais vraiment été un club qui s'est assumé en reconstruction. C'est pour ça que ça prend du temps. Là, c'est plus officiel. D'où ça part, cette passion-là pour le Canadien de Montréal? Je pense qu'il y a un attachement dès la jeunesse, dès mes premiers souvenirs. J'aimais écouter le Canadien, même si ils n'ont jamais vraiment été dominants. Ils ont eu des bons flashs, mais ça n'a jamais été finalement une dynastie comme ils ont été à travers l'histoire. Puis de suivre cette histoire-là aussi, je trouve ça vraiment intéressant de grandir avec Carey Price. J'ai connu aussi la génération Sakou Koivu, Alex Kovalev, là, de voir finalement cette transition-là qui, maintenant, c'est Suzuki, Caulfield et... Il y a ça, le sentiment de fierté aussi parce que j'ai recommencé à suivre ça beaucoup plus en 2021 avec finalement notre course vers la Coupe Stanley qui a été... Un peu difficile arriver au dernier affrontement contre le Lightning. On s'est fait battre en 5 parties. Donc, ça n'a pas été facile, mais ça l'a comme rallumé la flamme de la passion pour le hockey, mais aussi pour le Canadien de Montréal parce que, justement, de pouvoir dire... C'est notre club de Montréal, c'est nous autres, et de prouver aussi aux détracteurs, à ceux qui croient que les Canadiens ne sont pas bons, qui sont capables d'aller en finale de la Coupe Stanley. On en a jasé beaucoup. Là, on va se laisser un peu de lousse pour présenter l'émission et on reviendra peut-être sur cette finale incroyable. Et je terminerai finalement en parlant du Canadien de Montréal que écoutez le hockey, surtout quand ils sont quand même bons, c'est rassembleur. Je trouve que c'est toujours festif de pouvoir célébrer ça, entouré, de pouvoir finalement écouter le hockey, que ce soit en famille, que ce soit en amis, c'est toujours plaisant. Donc voilà pourquoi moi je vous parlerai très fidèlement des Canadiens de Montréal. Ce sera mon équipe pour toute cette première saison de tête d'hockey. Mais on va pas juste vous parler bien évidemment de ces deux équipes-là. C'est un club du New Jersey, un club de Montréal et non, on est à Québec. Donc on va parler de la Ligue nationale en général. On va vous parler des Remparts aussi, quand il va y avoir évidemment des choses à dire. Une grosse saison cette année, la dernière peut-être du cher coach Patrick Roy. Mais de quoi est-ce qu'on va parler d'autre à tête d'hockey, Raphaël?
Comme tu l'as mentionné, c'est vraiment l'idée de mettre la Ligue nationale dans son contexte.
Ouais.
De parler des manchettes, des nouvelles importantes, mais on a aussi des segments qui sont importants qu'on va essayer d'amener de façon hebdomadaire, que ce soit les étoiles de la semaine dans la Ligue nationale.
Ouais.
Comme beaucoup de gens le savent, la Ligue nationale à chaque semaine présente 3 étoiles. Vous aurez bien compris que c'est les 3 joueurs qui ont le mieux performé dans la Ligue nationale la semaine d'avant. Donc souvent ces joueurs-là, c'est des joueurs d'impact. Des fois, on a des surprises. Donc c'est toujours intéressant là, de parler de ces 3 joueurs. Là.
On va vous en parler de ceux de la semaine, finalement, un peu plus tard dans l'émission.
Absolument. Sinon, moi et Félix, on s'est donné comme défi de se faire des top 10 et des top 5 sur divers sujets du hockey, que ce soit nos joueurs préférés, nos buts préférés, nos moments préférés. Bref, il y a tellement de sujets à toucher.
Tantôt, j'ai pensé peut-être au meilleur gardien droitier. Ça n'arrive pas souvent.
Oui, c'est vrai.
Il y en a qui se démarquent, donc peut-être plus un top 5, là, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup.
Absolument.
On a plusieurs noms en tête pour des entrevues. On aimerait beaucoup... peut-être interviewer des joueurs des Remparts, des joueurs plus locaux, je dirais, pour avoir de la proximité avec Québec, pour avoir un point d'ancrage, parce que sinon, on essaierait peut-être d'avoir, je sais pas moi, Kirby Doc ou Cole Caulfield, mais je pense que ça va être un peu plus difficile. Mais voilà, on aimerait faire des entrevues avec des acteurs de la scène locale, mais en général aussi, finalement, des des entrevues le fun pour parler avec des gens qui sont dans le milieu du hockey. On veut aussi mettre de l'avant les joueurs québécois. Il y en a plusieurs. Tu as parlé de Martin Brodeur qui en est un pas pire, c'est mon avis. On veut vous présenter soit des joueurs que vous connaissez bien. Si vous en connaissez déjà, on va peut-être vous apprendre des nouveautés sur des joueurs de Québec, des joueurs du Québec. On va vous parler un peu plus tard du championnat mondial junior. Il y en a des Québécois qui se sont démarqués, entre autres certaines recrues du Canadien. Joshua Roy, pour ne pas le nommer. Je t'inviterai à présenter ton prochain segment qui va être, j'ai l'impression, peut-être plus ton angle, parler de recrues, parler de statistiques. Comment tu vas aborder ça?
Absolument. Moi, un des gros plaisirs que j'ai à suivre le hockey, la Ligue nationale, c'est de suivre les espoirs, les prospects, entre guillemets, des équipes de la Ligue nationale. Après tout, c'est les stars de demain, donc c'est super important de les mettre de l'avant.
Tu les suis quand même de tôt dans leur carrière, disons 15-16 ans?
Un petit peu plus vieux que ça, je dirais. La réalité, c'est que on en a discuté un petit peu plus tôt, mais avec mon équipe qui allait pas très bien, la seule lueur d'espoir que j'avais pour le futur, c'était de suivre les jeunes joueurs qu'on avait dans le club école ou même qu'on avait repêché. Ouais. C'est la réalité. Comme Félix l'a mentionné, on va discuter un petit peu du tournoi junior mondial un petit peu plus tard, qui est franchement un de mes événements de hockey préférés à chaque année.
La tradition du nouvel an,
exactement, de Noël, du temps des fêtes, pour moi ça rime avec tournoi de hockey mondial junior. C'est super important, c'est là qu'on voit le talent qui s'en vient dans la Ligue nationale bientôt. Puis ensuite de ça, j'aime ça faire un lien avec les statistiques avancées aussi.
Parce que c'est ta spécialité. Moi, c'est plus dans l'histoire, dans finalement les événements qui se passent, et toi, c'est dans les prédictions, mais des prédictions qui s'assoient sur finalement des statistiques qui font leur preuve.
C'est ça. Les statistiques avancées, c'est quelque chose qui a de plus en plus de poids dans les décisions des directeurs généraux, des entraîneurs dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Mais c'est un sujet qui est, comment je peux dire, qui est assez méconnu par les fans en général, mais c'est quelque chose qui est super intéressant, qui définit des tendances aussi à travers les équipes. C'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses? Est-ce que les performances des équipes présentement sont plus basées sur la chance? Il y a de la chance, il y a de la malchance, il y a plein de choses à décortiquer là-dedans. Donc c'est quelque chose que je vais essayer d'amener à chaque semaine, un petit segment statistique avancée où je vous présenterai une statistique qui est utilisée là par les organisations de la Ligue nationale.
Entre autres, le pourcentage de tirs. Tout ça, là, ça va être assez détaillé.
Exactement. Et
je vous invite à rester à l'écoute pour ne rien manquer de ces stats avancées. Ça, c'est un je veux vous présenter un segment que je tiens beaucoup à cœur, c'est les conseils du pool. Pour ceux qui m'écoutent et qui savent à quel point mon pool ne va pas bien, je ne me considère pas comme étant la personne qui donne les meilleurs conseils pour les pools, mais on va en donner pareil et on a différentes sources aussi qui nous démontrent les joueurs à aller chercher. On s'entend que si vous avez un pool qui a beaucoup de participants, c'est des joueurs peut-être de 3e, 4e trio que vous allez chercher. Sinon, ben voilà, on va vous donner des conseils. Et à vous, après ça, de faire vos moves, comme on dit, pour vos poules. Parce que, étant le dimanche soir, les poules, c'est semaine après semaine. Et on peut bien finir la semaine et mieux commencer la prochaine. Et on vous a parlé, bien évidemment, de nos équipes. On va vous faire un portrait de... comme je l'ai dit un peu de la même façon que le pool, on va vous parler de la semaine qui s'est passée, la semaine à venir pour nos équipes qui, je le rappelle, moi c'est les très chers glorieux, les Canadiens de Montréal. Et toi, Raphaël, c'est les chers Devils du New Jersey. On a passé à un petit thème qu'on va faire pour personnaliser un peu notre émission. On va vous parler de nos joueurs préférés. Je laisserai commencer, Raphaël. Je crois qu'il y a quelques joueurs des Devils.
Absolument. C'est une bonne façon, en début d'émission, d'apprendre à nous connaître un peu plus, de se présenter. Pour ma part, mon joueur préféré, je dois dire que c'est Jack Hughes.
OK, OK, OK.
le choix de... Le premier choix au total des Devils en 2019.
Ouais, qui est comme un peu, j'ai envie de dire, la première pierre de la reconstruction ou ça a commencé avant?
Je dirais que ça a commencé avant. Je dirais que ça a commencé avec Nico Hischier en 2017, premier overall en 2017, premier au total. C'est vraiment les deux pièces qui qui sont, je dirais, le noyau de l'équipe, nos deux premiers joueurs de centre. On a un joueur en Jack Hughes qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus...
Qui est le fun à regarder.
Qui est très agréable à regarder, en effet. C'est un joueur qui, comme on dit en anglais, qui drive le jeu.
Ouais.
C'est un créateur de jeu incroyable. Puis, on a Nico Ishier, de l'autre côté, qui est un joueur de centre qui est très bon offensivement, mais qui est excellent aussi dans sa zone. On peut parler un petit peu d'un Patrice Bergeron. Ouais. Évidemment, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est un peu le même genre de joueur.
Ishier, qui est, pour ceux qui le savent, le capitaine des
Absolument, Devils. Absolument. donc, c'est vraiment ces deux joueurs-là, là, je dirais, les deux pierres angulaires de l'équipe.
Mais là, si on sort un peu des Devils, est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans la ligue que t'aimes voir, que ce soit pour ton pool ou pour d'autres choses?
Absolument. J'aime beaucoup regarder Nathan MacKinnon jouer.
Ouais.
Nathan MacKinnon, joueur de l'Avalanche du Colorado. Un joueur qui est extrêmement intense, ouais. Qui est extrêmement talentueux aussi. On dirait une gazelle sur la patinoire, la façon qu'il patine, qui a gagné la Coupe Stanley, évidemment, avec l'Avalanche du Colorado l'année passée.
Mm-hmm.
C'est vraiment un bon leader. C'est un gars qui est intense. C'est un gars que tu le vois quand il est sur la patinoire, qui se donne à 100%.
Exact.
Puis ça, je trouve ça vraiment agréable à regarder.
Mm-hmm.
Un autre joueur que je trouve vraiment plaisant à regarder, c'est Miro Heiskanen.
Lui, il est un peu moins connu, puis je t'inviterais peut-être à mettre du contexte en présentant Miro Heiskanen.
Oui, absolument. Miro Heiskanen, c'est un défenseur finlandais qui a été repêché 3e au total par les Stars de Dallas en 2017.
Donc, il est prometteur.
Oui, absolument. En 2017, la même année que Nico Ishier avec les Devils.
Ouais.
C'est un défenseur qui est extrêmement solide défensivement, mais offensivement, c'est un excellent patineur. Il crée le jeu aussi. C'est un défenseur qui est assez complet. C'est vraiment un joueur qui est sous-estimé, je trouve, ouais. Autour de la ligue, mais c'est un défenseur qui a un potentiel de 50-60 points, puis qui touche la surface là, présentement. Donc, c'est définitivement un joueur que je vais suivre là, dans les prochaines années.
Les Stars de Dallas, il y en a pas mal, entre autres Rupe Hintz, qui est pas mal bon. Mais je vais y aller avec mes joueurs préférés maintenant, si tu le veux bien, Raphaël.
Ah, pas de problème.
Je commencerai avec le seul et l'unique, le numéro 97 du Wild du Minnesota, et j'ai nommé Kirill Kaprizov, le jeune Russe qui a migré de la KHL, de la KHL, pour venir jouer dans la LNH. Moi, ce que j'aime, c'est son coup de patin, sa façon de jouer qui est, je l'ai dit, il vient de Russie, donc on dirait qu'il voit le jeu différemment, il fait des tourniquets assez impressionnants. Si vous le connaissez pas, Kirill Kaprizov, je vous invite à aller voir quelques-uns de ses faits saillants. Très impressionnant, le jeune Kirill Kaprizov. Sinon, étant un fan du Canadien, je ne peux pas passer sous le nom de Cole Caulfield,
mais
qui
oui.
Vient d'ailleurs de marquer. Hein, faut le dire, le Canadien joue présentement contre les Rangers à New York. Et Cole Caulfield a marqué pour faire 2-1. C'est le début de la troisième période. On est à peu près à 15 minutes. Et Cole Caulfield, il est inspirant. C'est un des bons, un des meilleurs joueurs que le Canadien a eu dernièrement, si on regarde dans les 10 dernières années, là, les attaquants, c'est pas mal Cole Caulfield puis Nick Suzuki qui sont dans les meilleurs. Alors, c'est le fun à voir. Et je terminerai finalement ce segment en disant que j'aime beaucoup la nouvelle génération, plus dans la rapidité. On parle beaucoup de, entre guillemets, hockey IQ, donc l'intelligence du jeu. Donc, Kaprizov en fait partie, Jason Robertson avec les Stars de Dallas en fait partie, Tage Thompson en fait partie, Jack Hughes, un de tes préférés, finalement plein d'autres joueurs, on pourrait nommer Darlene, on pourrait nommer Stutzla, on pourrait nommer Zegras, il y en a plusieurs et on va avoir la chance de vous en présenter d'autres, bien évidemment. On pourrait prendre une petite pause. Ça fait 15 minutes qu'on jase comme ça. On va y aller avec une chanson qui est d'un band féministe de Montréal qui s'appelle No Bro. Et c'est la chanson Better Each Day. Quand je te l'ai fait jouer tantôt, tu m'as dit que tu la connaissais. C'est parce que c'est dans la pub de NHL 23.
Ouais. Alors, je sais qu'elle est dans le jeu, mais je suis pas mal certain que je l'ai entendu dans la publicité.
Bon, mais on y va avec Better Each Day de No Bro. Et au retour, on va pouvoir commencer finalement. Là, on vous a présenté qui on était, qui on aimait, nos équipes, nos joueurs. Là, on va y aller avec finalement le vif du sujet. On va vous parler entre autres de comment ça s'est passé avec les Devils la semaine dernière, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. Même chose pour le Canadien. On va vous parler aussi du championnat junior mondial. Ça s'est terminé début janvier, mais là, on en profite. Premier épisode, on en parle tout de suite. On y va donc avec Better Each Day de No Bro. Vous écoutez Tête d'Hockey.
I spent my whole life running away. I bitch is not illegal. So.
De retour à Tête d'Hockey. Et oui, cette nouvelle émission. Mon nom est Félix Duchesne, je suis en compagnie de
Raphaël Côté-Rioux.
Et oui, on va vous parler de hockey à chaque dimanche 19h. On vous a parlé entre autres de nos équipes qu'on va s'assurer de bien décortiquer. Donc moi, c'est le Canadien. Raphaël, c'est les Devils. Et on va aussi vous parler des trois étoiles de la semaine. On commence par la troisième. C'est le défenseur des Sabres de Buffalo, Rasmus Dahlin, qui a fait 2 buts, 4 passes, 6 points en 2 parties. C'est quand même des en une semaine, 2 parties, il fait 6 points, c'est très très bon. Il est 2e pour les points pour tous les défenseurs de la Ligue nationale avec 48 points en 40 matchs. Si vous ne l'avez pas dans votre pool, je vous passe un papier, allez le chercher. Il confirme en même temps son rôle cette saison, j'ai l'impression, de premier défenseur à Buffalo. Il y en a qui ont beaucoup de confiance envers Owen Power, premier choix repêchage en 2020. Et il y a Tage Thompson
2021,
aussi.
En fait.
2021. Mais tout ça pour dire, Rasmus Dahlin, 3e étoile. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Sabres de Buffalo. C'est un club avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Je parle évidemment de plusieurs joueurs qui vont pouvoir être bons dans les prochaines années.
Absolument. C'est une équipe très jeune. Une équipe qui reconstruit depuis longtemps.
Ouais.
Rasmus Dahlin, qui s'est fait repêcher en 2018. Mm-hmm. C'est un défenseur qui a beaucoup de talent. C'est un défenseur qui était vu comme un défenseur quasi-générationnel.
Ouais. Est-ce qu'il va le devenir? On le sait pas.
C'est une bonne question. Les défenseurs, habituellement, ça prend plus de temps à se développer dans la Ligue nationale de hockey. C'est une position qui est pas facile, non seulement du côté offensif, mais aussi du côté défensif. T'sais, être défenseur, c'est, oui, générer de l'offensive, c'est un must, mais être bon dans sa zone, être bon en transition, c'est autant important. Puis je pense que Rasmus Dahlin est définitivement sur la bonne voie. Il est encore très jeune, encore beaucoup de temps pour se développer puis devenir, comme tu l'as mentionné, là, ce défenseur numéro 1 pour les Sabres de Buffalo, mais il y a Owen Power aussi qui est dans les voiles. C'est un très bon top 2 là, à Buffalo qui est en train de se
jouer. Est-ce qu'ils vont jouer ensemble ou ils vont justement dominer les deux premières paires?
Personnellement, je vois pas pourquoi ils pourraient pas jouer ensemble. La réalité,
parce qu'ils se complètent.
Oui, exactement. On a un défenseur qui est un peu plus complet avec un défenseur qui est surtout offensif.
Ouais.
Donc, ça dépend vraiment de la stratégie que les entraîneurs puis les directeurs généraux à Buffalo vont vouloir mettre de l'avant. Des fois, on aime ça. séparer deux joueurs d'impact comme ben ça. Oui. On aime ça balancer un petit peu notre alignement. Mm-hmm. Donc, ça dépend vraiment là, de la décision. Mais Rasmus Dahlin, là, un excellent défenseur pour les Sabres de Buffalo. On passe ensuite à la deuxième étoile de la semaine. Mon préféré, on en a parlé plus tôt. L'Américain Jack Hughes, joueur de centre pour les Devils du New Jersey, avec 5 buts et 2 passes pour 7 points en 3 parties cette semaine. Jack Hughes a vraiment une bonne saison cette année.
C'est sa saison où il explose. C'est là qu'il prouve qu'il est un joueur dominant.
Ouais, l'année passée, il s'est blessé en début de saison. Mmh. Quand il est revenu, il a eu une excellente fin de saison. Ouais. Beaucoup plus qu'un point par match. Il était on pace, si on veut, ou si la tendance se maintenait, il y aurait eu une saison d'au-dessus de 100 points en 82 matchs, donc une saison complète. Cette année, c'est la même chose. Selon moi, il va atteindre le plateau des 100 points et il deviendrait du fait même le premier joueur des Devils du New Jersey à atteindre le plateau des 100 points. Donc, ça serait assez impressionnant.
Le premier joueur de tous les temps?
Tous les temps.
Zach Parise n'a pas fait ça.
Jamais.
Travis Zajac n'a pas fait ça.
Jamais.
Pour ceux qui ne comprendraient pas, on parle des vieux, des joueurs de l'autre génération des Devils, puis ils n'ont jamais fait 100 points.
Ben, jamais.
Je comprends pourquoi tu l'as mis où maintenant.
Ouais, c'est ça. Pas de marqueur de 50 buts. Pas de joueur de 100 points.
Il y avait Martin Brodeur en même temps.
Il y avait Martin Brodeur en même temps. Le plus proche à avoir atteint le plateau des 50 buts avec les Devils, assez ironiquement, c'est Brian Gionta qui a compté 48 buts avec Scott Gomez comme joueur
c'est
de centre.
Vrai.
Donc, c'est assez drôle. Là, on fait un petit lien avec les Canadiens de Montréal. Mais voilà. Jack Hughes, un joueur assez talentueux qui vient d'avoir 21 ans, donc qui ne fait qu'égratter la surface. On peut s'imaginer à quel point il va être dominant d'ici 2, 3, 4 ans quand il va vraiment être à son pic. Ouais. On veut, mais déjà un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale à 55 définitivement. Donc, le futur, the future is bright, comme on dit.
Et voilà. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais inviter nos auditeurs à aller nous suivre sur les médias sociaux parce que finalement, tous les joueurs dont on vous parle, toutes les actions qu'on veut vous montrer, évidemment, on est à la radio, donc on ne peut pas vous montrer des jeux qui ont été faits ou finalement des manœuvres impressionnantes. Donne tous les détails, Raphaël, de comment est-ce qu'ils peuvent nous suivre pour qu'après ça, s'il y a un but incroyable de Jack Hughes, on va le partager. Où ils peuvent voir ça?
Absolument. Donc, on a notre page Instagram. Vous avez juste à taper Tête d'Hockey sur Instagram. Vous
tête
allez nous trouver.
Tête au pluriel de Exactement. Hockey en un mot. Voilà.
Voilà. Ça ressemble à ça. suivez-nous en grand nombre. Beaucoup de choses à être partagées sur la page éventuellement. Puis des détails sur l'émission aussi et où nous retrouver d'autres, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre en grand nombre.
Voilà. On termine finalement le top 3 de la semaine avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même s'il est avec les Bruins de Boston. Je l'ai dans mon pool et je l'aime particulièrement, justement parce qu'il fait beaucoup de buts.
Absolument. On parle de Pasta ici, David Pastrnak, l'attaquant des Bruins de Boston, ouais. qui a 7 buts et une passe pour 8 points en 4 parties. La semaine dernière, un excellent joueur, on le sait, il a fait ses preuves depuis plusieurs années, un joueur d'impact pour les Bruins de Boston. Il y a aussi des rumeurs qui circulent. David Pastrnak est agent libre sans compensation cet été.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi, agent libre sans compensation?
Dans la Ligue nationale, il y a deux types d'agents libres. On a les agents libres sans compensation, les agents libres avec compensation. Mmh. Les agents libres avec compensation, c'est des joueurs qui sont jeunes. Il faut avoir joué autour d'un minimum de 7 ans dans la Ligue nationale pour devenir sans compensation. Mais quand tu es avec compensation, tu es avant libre, tu as besoin d'un contrat. Donc, techniquement, tes droits appartiennent à l'équipe qui t'a repêché encore.
Okay.
On a vu une situation récemment avec Kotkaniemi qui s'est fait... prendre par les Hurricanes de la Caroline.
Ouais.
On appelle ça un offer sheet en anglais. Dans le fond, un agent libre avec compensation peut signer avec une autre équipe, mais l'équipe qui a les droits du joueur peut égaliser cette offre-là avec l'équipe. Puis s'il décide de ne pas égaliser, il y a une compensation qui vient à l'équipe qui a les droits du joueur.
Donc, juste pour remettre en contexte, là, quand un joueur a fini son contrat, il est libre, mais après, il peut décider soit de re-signer avec l'équipe ou de signer avec une autre équipe. S'il signe avec une autre équipe, là, il faut qu'il y ait une discussion finalement parce qu'il peut avoir des conditions.
Oui, ça, c'est les agents libres avec compensation. Un agent libre sans compensation,
lui, il peut signer avec,
signer avec
équipe,
qui tu veux à partir du 1er juillet ou la date qui est attribuée par la Ligue nationale, peut signer avec n'importe qui. C'est le cas pour cet été avec David Pasternak. Ouais. Donc, il y a
donc,
un travail.
Il pourrait partir libre comme l'air.
Exactement. Le 1er juillet, il pourrait signer avec qui il veut. Il y a un travail qui est en train d'être fait avec les Bruins de Boston, par contre, pour une extension. Les rumeurs circulent pour un contrat de 88 millions environ pour 8 ans. Donc, on parle de 11 millions par année.
Quand même.
C'est ça que ça vaut un joueur de premier plan dans la Ligue nationale aujourd'hui.
Ça fait du bien au portefeuille.
Ça fait du bien au portefeuille, en effet. Puis, c'est des gros contrats qui se donnent.
Parce que, faut le dire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce fameux PASTA qu'on appelle affectueusement, David Pasternak, qui est à Boston, il y a Patrice Bergeron, bien évidemment, mm-hmm. il y a Brad Marchand, et en troisième, il y a David Pasternak, qui est un peu la prochaine génération à finalement représenter Boston. Il fait partie de l'identité de l'équipe. Je pense bien qu'il va signer là, et puis 11 millions pour 8 ans, ça veut vraiment dire qu'il veut s'établir à Boston. Là, c'est des rumeurs, mm-hmm. c'est des trucs qu'on a vus un peu à gauche à droite, on soulève ça, mais...
Ça reste à confirmer, mais voilà. Je m'attendrai à avoir des nouvelles là-dessus prochainement.
Voilà, donc les trois étoiles de la semaine sont faites, je les rappelle, Rasmus Dahlin, Jack Hughes et David Pasternak. On va y aller avec une pause, la pause de la demi-heure. On est ensemble jusqu'à 20h, vous écoutez Tête d'Hockey à Chiz 94.3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit égaux. Plongeons le monde ou black, hey yo! Appelle-moi la DM, c'est chaud!
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre, ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finalisez votre testament. Et 5. Donnez vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
De retour à Tête d'Hockey avec Félix Duchesne.
Raphaël Côté-Rioux.
Et oui, on commence ça aujourd'hui. Première émission, non la moindre, non la dernière. On va vous parler de plein de choses concernant le hockey. Beaucoup de Ligue nationale. On va vous parler des Remparts aussi. Quand il y a des choses à dire, parce qu'on représente Québec fièrement. Mais là, on va vous parler de nos équipes qu'on aime particulièrement. Moi, c'est les Canadiens de Montréal qui affrontent présentement les Rangers de New York. Ils ont décidé de jouer à 5h, un dimanche, comme ça. Et là, la troisième période qui tire à sa fin, les Canadiens qui mène 2-1. Et ça te rend joyeux, je pense, Raphaël. Pourquoi?
Ah, absolument. Les Rangers de New York est une équipe rivale des Devils du New Jersey. Ouais. On parle d'une rivalité qui est assez naturelle ici, le New Jersey versus versus New York. Ouais. Deux États qui sont très près. Deux équipes qui s'aiment pas beaucoup, qui ont beaucoup d'histoires dans les séries aussi. Les Rangers qui ont éliminé les Devils en finale de conférence en 1994 sur un but de Stéphane Matteau.
T'en as de la mémoire.
Oui, c'est ça. Et puis les Devils qui ont rendu l'appareil aux Rangers en 2012 lorsqu'ils ont battu en finale de conférence sur un but de Adam Henrik en prolongation.
Le seul Adam Henrik.
Exactement, qui est maintenant avec les Ducks d'Anaheim. Ouais. Mais en fait, je confirme, la partie est terminée. Les Canadiens qui remportent 2-1 sur les Rangers en temps réglementaire, donc je suis très content.
Ben, c'est fait. Moi, je suis un peu déçu là, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un joueur qui s'appelle Connor Bedard. On va vous en parler un peu plus tard dans l'émission quand on va parler du championnat mondial junior. Mais c'est le premier choix prédit par la plupart des gens, un peu de façon très facile. On dit c'est lui premier, c'est même pas un débat. Et puis là, ben, pour être premier à le choisir, il faut être très mauvais, pour le dire d'une façon la plus simple. Et le Canadien doit perdre jusqu'à la fin de l'année. Et là, il gagne, donc je suis un peu déçu. On va vous donner des nouvelles de nos équipes. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Et je commencerai finalement avec les Canadiens de Montréal qui ont joué 3 parties. Ils ont commencé la semaine lundi, le 9 janvier, contre le Kraken. Ça a très mal été. Ils ont perdu 4-0. Ça a été très difficile. Le Kraken qui ont une bien meilleure saison que la dernière, il faut le dire.
Une excellente saison pour le Kraken.
Ils ont fait beaucoup, beaucoup de moves, entre guillemets, durant la saison morte. Ils sont allés chercher, entre autres, Burakovsky, de l'Avalanche sont allés chercher des choix au repêchage. Ils ont fait beaucoup de moves et j'apprécie quand même cette équipe-là avec entre autres Matty Beniers qui m'impressionne beaucoup. Donc voilà pour la première partie des Canadiens de la semaine dernière. Ils ont joué contre les Prédateurs jeudi à Montréal avec un super hommage à Piqué Subban.
Ouais, c'était un match spécial, un hommage à Piqué Subban qui a terminé sa carrière avec les Devils du New Jersey.
Oui, ça fait waouh les liens.
Exactement. Puis aussi, je tiens à le souligner, c'était le premier match pour le gardien de but, Yaroslav Askarov, qui a été le premier choix des Prédateurs de Nashville en 2021.
Mais qui l'a malheureusement perdu.
Oui, mais être gardien de but, c'est beaucoup de développement.
C'est long
c'est
aussi.
De temps.
On parlait des défenseurs, mais les gardiens, je pense que c'est
encore plus
long.
Il fait bien dans la Ligue américaine cette année. Il vient de la Russie. Donc, c'est un temps d'adaptation, c'est certain, mais je trouve qu'il a assez bien paru tout de même là, pour son premier départ dans la Ligue nationale.
Voilà, et le Canadien a terminé... non, ils n'ont pas terminé la semaine. Ils ont joué hier soir contre les Islanders. Ils ont perdu 2-1. Ils ont terminé la semaine. Ils viennent de la terminer il y a quelques instants contre les Rangers de New York avec une belle victoire de 2-1. Donc voilà pour la semaine des Canadiens. Sinon, Jake Evans qui s'est blessé hier, ben, qui a quitté le match contre les Islanders hier en première période. Après la partie, il marchait difficilement. Il portait même, on dit, une orthèse au genou gauche. C'est assez précis, mais ça te prouve que c'est quand même c'est inquiétant là, pour la suite. Jake Evans, qui, on le rappelle, un joueur de 26 ans qui a 11 points, dont 2 buts en 42 matchs cette saison. C'est pas le meilleur. C'est un bon joueur de quatrième trio. Dans les 5 derniers matchs, Evans a quand même été l'un des meilleurs attaquants du Canadien avec 1 but, 3 passes. Si t'es le meilleur de ton équipe dans les 5 derniers matchs avec 1 but, 3 passes, je te passe un papier que ton équipe, ça va pas bien. Mais comme on l'a dit tantôt, encore une fois, tant mieux si le Canadien, ça va pas bien. On veut avoir Connor Bedard. Comment s'est passée la semaine du côté du New Jersey?
Une grosse semaine pour les Devils la semaine dernière. 4 matchs, 4 victoires.
Quand même.
Dont 2 victoires contre des rivaux de la division métropolitaine, les Rangers en prolongation, ainsi que les Hurricanes de la Caroline. Donc, ça fait du bien.
Deux grosses équipes quand même.
Oui, deux grosses équipes. 2 victoires là, assez importantes qui viennent un petit peu... agrandir le coussin, si on veut, qu'on a sur la division.
Donc, on a vraiment deux paysages complètement différents. Là. Les Devils qui aspirent quand même aux séries, on va le dire, cette année. C'est le temps qui efface les séries.
Absolument, absolument. c'est le temps. Le succès qu'ils ont eu cette saison, c'est un peu une surprise pour moi. Moi, je m'attendais à une équipe améliorée.
La reconstruction allait prendre encore un peu plus de temps?
Peut-être l'année prochaine.
Ouais.
Mais ça se prend très bien. Les jeunes joueurs ont vraiment pris un élan, si on veut. Donc, ça se passe vraiment bien. Puis, on a aussi les deux autres victoires de la semaine. C'est le voyage dans l'Ouest américain pour les Devils cette semaine et la semaine prochaine. Donc, 2 victoires contre les Ducks d'Anaheim et les Kings de Los Angeles. Donc, 4 victoires en 4 matchs pour les Devils.
Ben, justement, je te laisserai peut-être parler de ce qui s'en vient cette semaine là, pour les Devils. On va rappeler leur fiche qui... ça va bien. 28 victoires, 12 défaites, 3 défaites en prolongation. Ce qui fait qu'ils sont deuxième dans leur division. Ça va bien. Est-ce que tu penses qu'ils seraient capables d'aller chercher le premier rang?
Je pense que c'est une possibilité. La réalité, c'est que les Hurricanes de la Caroline, c'est une excellente équipe de hockey qui joue un système très constant, très discipliné. La réalité, c'est que moi, en tant que partisan des Devils, la première position m'importe peu au stade où on est dans la reconstruction de l'équipe. Moi, la réalité, c'est que je veux juste faire les séries, voir une progression, c'est ça qui est important. Mais s'il reste en deuxième dans la division toute la saison, ça serait le fun. Puis ça garantirait aussi l'avantage de la glace en série.
Évidemment, oui.
Exactement.
On en a parlé en début d'émission, et si vous avez manqué ça, Raphaël, qui suit les Devils depuis 2004. Et ben justement, ça fait un bout que t'es suis, ça fait un bout que c'est un peu difficile, mais je pense que c'est pour ça aussi que t'as une patience avec tes attentes face à ton équipe pour chaque saison. Là, tu te dis, deuxième rang, ça me va, on y va. En anglais, on dit « trust the process », donc de faire confiance au processus de reconstruction. Et je pense que les Devils sont dans la bonne direction. Qui vont-ils affronter cette semaine, Raphaël?
Cette semaine, on continue le voyage dans l'Ouest américain. Pour les Devils, on a une partie lundi contre les Sharks de San Jose qui ont une saison assez difficile. Et puis ensuite de ça, jeudi contre Seattle que Félix a mentionné, ont une très bonne saison qui dépasse les attentes. Et puis ensuite de ça, on retourne à la maison dimanche prochain contre les Penguins de Pittsburgh, donc seulement 2 matchs cette semaine. Et puis les Penguins dimanche prochain.
Voilà. Et le Canadien, eux qui ont pas besoin de le dire, ça va plus ou moins bien. Fiche de 17-23, 3 défaites en prolongation. Ils sont 8e dans leur division. Les séries ne font plus partie des plans réalistes. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, on y va pour Bédard. Mais oui, cette semaine, finalement, ben, il y a le match contre New York qui a eu lieu. Victoire. New York qui, eux, vont quand même bien aussi. Ce soir, c'était aussi le retour au jeu de Mike Hoffman et de Michael Pezzetta. La prochaine partie sera mardi contre les Jets. C'est à Montréal. J'ai regardé ça tantôt. Les Jets vont quand même plutôt bien. Moi, j'ai jamais trouvé que les Jets étaient une bonne équipe, mais pourtant, ils me font mentir cette année avec une fiche de 28-14 et une défaite en prolongation. Après mardi, c'est jeudi contre les Panthers à Montréal. C'est plutôt difficile cette année pour les Panthers, donc absolument, on peut peut-être espérer une victoire. Et après ça, la semaine se terminera samedi prochain contre nos rivaux, les Maple Leafs, qui, eux, ont eu un lent début. Mm-hmm. Là, ça va bien.
Absolument.
Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ça en série? On verra. Pour ceux qui ne le savent pas, les Maple Leafs sont très mauvais en série éliminatoire. Ils ont l'habitude, la fâcheuse habitude, de se faire éliminer en première ronde. On verra qu'est-ce que ça va donner pour cette année. Est-ce que Austin Matthews, Mitch Marner et William Nylander seront en mesure de finalement confirmer les attentes que plusieurs ont en leur égard? Il y en a qui pensaient à chaque année à Toronto, on dit c'est leur année. C'est leur année. C'est leur année. On verra si 2023, c'est la leur. On y va avec pas besoin, parce que nous, à Montréal, on n'a pas besoin de gagner cette année. On veut Bédard. Donc, on y va avec pas besoin d'Eman. Vous écoutez Dead Doggy.
On met les coches dans les cases. Yeah. Les cases, on met les coches. Tu peux même pas nous accrocher. On est carré, on est frais. Mais faut des coffres pour nous freiner. On est basse, puis on play. On a shake et on a shake it out. On est parti pour vous checker. On est même pas venu vous checker. On a le trajet dans nos cases. Depuis le collège, on est prêt à tête virée d'autre part. Le Canada, we the boss. Sauf le présent quelque part. Dans le east side, west side, north side, south side. T'es des sides, sauf le body side. Lâchez le son, grimpe aux palissades. Les vulgaires font les ignorants, les poils savent. On est beaucoup, on n'est pas les seuls. Fais attention à ce que t'envoies dans notre joli ciel. C'est plus que des beats sur les logiciels. Real talk, non preach comme les officiels. Comme on dit mon gars, be careful what you wish for. C'est pas un plus important qu'un 5 dans un pitch fort. Mais dis-moi dans quel genre de lingue que t'as envie de drop. J'espère que c'est un look que celle qui est dans tes narines là. J'ai rider dans le pion comme celle puis on se lance sur autre chose sur nos cahiers. J'aimerais vu ça bébé complexe. Tu voulais qu'on se teste pour moi. On s'échappe, puis on s'attache, puis on se recoupe, puis on se rattrape. Moi j'ai d'autres chats à fouetter. On s'appelle ça du respect. Pas besoin de faire exprès. Moi j'ai pas d'état d'année. We bout to bust like bus lab. Mais tassez-vous donc, on est basé, on est pas stable. Pas capable de le dire au passé, on est futuriste. Le passé est comme visionnaire, boost, t'aimes pas le style. Escalade de shit comme un Jeep, man. Shit plein de finish dans street comme Jeep, man. Alors, regarde le E avec les lauriers à la clara. Beaucoup de choses ont changé depuis place laurier. Tu prends ta tête, ta pose sur l'oreiller. C'est bien dommage que tu te reposes ou que tu t'effaces quand on est réveillé. Tu veux la pose, la voix la révéler. Je me sens comme Danny Dan ou MC Claude. Quand la plume, je laisse aller. J'en écris beaucoup, j'en suis désolé. J'fais des erreurs depuis des années. Pas besoin de des amis. Au pire, on coupe comme un salami. Ou bien on split ça comme Luxonné. J'ai rider dans le pion comme safe. Puis on se lance sur autre chose sur nos cahiers. J'aimerais vu ça bébé complexe. Tu voulais qu'on se teste pour moi. On s'échappe, puis on s'attache. Puis on se recoupe, puis on se rattrape. Moi j'ai d'autres chats à fouetter. J'appelle ça du respect, pas besoin de faire exprès. Moi j'ai pas d'état d'année.
De retour à Tête d'Hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Tête d'Hockey, c'est une toute nouvelle émission animée par moi-même, Félix Duchesne, et mon ami Raphaël. Raphaël Côté-Rioux, oui, qui, à tous les dimanches, on va vous parler de hockey, de la Ligue nationale, des remparts, un peu de tout. Et vous voulez rien manquer parce qu'on va vous donner des conseils pour vos poules. On va vous parler des nouvelles à ne pas manquer dans la LNH. Et on vous fait même des retours sur des événements qui ont eu lieu. Là, on va vous parler du championnat mondial junior. Ça avait lieu du 26 décembre au 5 janvier. Ça fait quand même un petit bail. Ça fait 10 jours que c'est terminé. Mais on veut vous en parler parce que depuis le début de l'émission, on vous dit qu'on suit les recrues, qu'on regarde les reconstructions des équipes et ça a brassé pas mal. Ça s'est fait à Halifax et à Moncton. Je pense qu'on surprend personne qui suit le monde du hockey en disant que le Canada a gagné la médaille d'or. Connor Bedard a fait des records de points finalement en battant entre autres Jordan Eberle. Ça m'a impressionné de savoir que c'était un des meilleurs Canadiens qui a joué au championnat junior mondial. Je pense qu'on sait aussi que c'est contre la Tchéquie. C'est contre la Tchéquie que la Tchéquie a remporté l'argent en étant défait par le Canada. Et les États-Unis ont pu battre la Suède dans la finale que j'appelle affectueusement la finale des perdants.
Un match de fou. 8-7 en prolongation. On voit que la défensive a un petit peu... On a été un petit peu plus relax sur la structure là, pour le match.
Je pense qu'il faut que tu le répètes, ça a terminé 8-7
en prolongation.
C'était un match tout feu, tout flamme. Les États-Unis qui ont plusieurs joueurs assez intéressants, entre autres Logan Cooley. Moi, c'est un des joueurs qui est sorti de ce tournoi-là. On va faire un top 5, là, mais je nomme des noms comme ça. Sinon, il y a le petit frère de Jack Hughes, Luke Hughes, le défenseur américain, qui a aussi un bon tournoi. Et un autre nom, tiens, j'en donne un autre. Shane Wright, celui qui a été boudé pour le premier choix au repêchage l'année dernière. Il était plutôt bof. C'est sûr que quand tu as Connor Bedard sur ton équipe, c'est un peu difficile de te démarquer, mais il n'a pas été très flamboyant. On rappelle que c'est un tournoi assez court de 7 parties, donc c'est un peu difficile aussi de montrer une certaine tendance, mais il faut exploser lors de ces matchs-là. Et Shane Wright qui a été un peu dans l'ombre, on va dire.
Shane Wright qui avait un rôle, disons, un peu moins offensif, puisqu'il y a d'autres armes que le Canada pouvait utiliser. Shane Wright qui a été mis dans une position un petit peu plus défensive.
Qui avait été nommé capitaine quand même.
Absolument, on lui faisait confiance beaucoup pour un jeu responsable. J'ai beaucoup aimé sa demi-finale et sa finale. Overall, un tournoi peut-être un petit peu décevant pour lui, mais je trouve qu'il s'est bien repris là, dans les finales, si on veut. Là.
Shane Wright qui, après avoir fait ce tournoi-là, il a été retourné dans les ligues juniors. Il a été échangé aussi dans une équipe. Ça, c'est assez particulier. Là, les équipes juniors peuvent faire des échanges, mais les droits restent quand même à l'équipe de la Ligue nationale dont le joueur a été repêché. On pourra vous en parler plus en détail s'il y a d'autres échanges monstres. Il y en a eu plusieurs. Mais là, on veut surtout rester sur le championnat mondial junior. On veut vous parler des surprises de ce tournoi. C'est le plus important de finalement notre retour sur le World Championship Junior.
Yep.
En bas de 20 ans, c'est faut le préciser. Donc, on va commencer avec la Tchéquie, ceux qui ont remporté l'argent. Je laisse y aller, Raphaël.
La Tchéquie qui a vraiment surpris cette saison. J'ai regardé la majorité de leurs parties. J'ai vraiment été impressionné par leur structure, par leur discipline. C'est une équipe qui n'a pas de talent explosif. Pas comme Connor Bedard, pas comme les États-Unis peuvent avoir, mais c'est une équipe qui a joué extrêmement bien dans son système, qui a bien fait l'année dernière aussi.
Il faut le dire, dans la ligue, dans les phases préliminaires, là, avant les phases d'élimination, la Tchéquie avait battu le Canada à leur premier match, donc c'est pas un club de jambon.
Non, exactement, c'est pas une surprise. C'est une équipe qui a extrêmement bien performé sur le dos d'excellentes performances de plusieurs joueurs, incluant le défenseur David Jiříček et Stanislav Zvozil, deux choix des Blue Jackets de Columbus en 2022. David Jiříček a été repêché 6e au total. Mm-hmm. Donc, c'est deux excellents défenseurs qui ont beaucoup de promesses là, pour les Blue Jackets de Columbus.
Ouais.
Moi, ma deuxième surprise du tournoi, c'est la Slovaquie.
Ouais.
La Slovaquie qui a eu une excellente performance du défenseur Simon Nemets, le deuxième choix au total des Devils du New Jersey en 2022.
Tu l'aimes beaucoup, lui, Simon Nemets.
Oui, je l'aime beaucoup. C'est un, mais j'ai regardé la majorité de ses parties au tournoi. Puis c'est un défenseur qui joue dans la Ligue américaine, le club école des Devils, les Comets de Utica. Puis c'est un défenseur qui a joué au-dessus de 25-26 minutes par match au tournoi. C'est un joueur qui a réussi à être point par match pour un défenseur malgré les lacunes offensives de l'équipe slovaque. Il a vraiment eu un bon tournoi. C'est un excellent leader. Puis il y a beaucoup de promesses pour le futur avec les Devils. Mais il faut aussi souligner la performance de Philippe Mechard, le choix des Canadiens de Montréal en 2022.
Le 26e choix overall qui, lui, contrairement à Juraj Slafkovský, a participé aux Mondiaux juniors. Il a aussi été renvoyé avec Kitchener, si je me rappelle.
Kitchener. Les Rangers de Kitchener dans la Ligue de l'Ontario.
Parce que on veut le développer, on veut lui donner le temps de s'adapter. On disait aussi que on voulait qu'il s'adapte finalement à aux États-Unis, au Canada, on joue sur des plus petites glaces.
En effet.
On a moins de temps, c'est plus rapide comme jeu, contrairement en Europe où c'est des glaces un peu plus grandes. Donc, on a voulu lui donner une chance de s'adapter sur le format, on va dire, américain des glaces de hockey pour ensuite peut-être arriver plus fort à Montréal. Slafkovský, on a un modèle de développement un peu différent, mais là, on va rester sur les joueurs qui ont participé au championnat mondial junior.
Absolument. Slafkovský, évidemment, qui n'était pas présent pour la Slovaquie au tournoi mondial junior, mais qui aurait sans doute fait une différence.
Ouais.
La Slovaquie a donné un effort assez incroyable contre le Canada en demi-finale. C'était assez impressionnant. En fait, c'était les quarts de finale, pardon. C'était assez impressionnant pour que la Slovaquie là, soit capable de jouer, se rendre en prolongation.
Ça s'est terminé en prolongation.
Oui, exactement, sur un but assez incroyable de Connor Bedard, d'ailleurs. mais c'est j'ai vraiment aimé leur performance. Un autre joueur aussi à souligner, c'est Dalibor Dvorský, qui est éligible au repêchage en 2023, qui joue présentement en Suède et qui devrait partir dans le top 10 au prochain repêchage. Donc, c'est un nom à garder en tête si vous êtes un fan d'une équipe là, qui risque de repêcher dans le top 10, parce qu'il a eu une excellente performance. J'ai retenu son nom parce qu'il a vraiment fait une impression. Donc, à suivre pour lui prochainement.
Mais là, on continue de vous parler de recrues flamboyantes. On va vous faire notre propre top 5 des joueurs qui ont participé au championnat mondial junior. On peut facilement passer le premier. Là, on va le dire. C'est Connor Bedard avec 9 buts, 14 passes, donc 23 points en 7 matchs. Je l'ai dit tantôt, c'est un tournoi assez court et lui, il a fait l'équivalent de une production assez impressionnante en seulement 7 matchs. C'est un joueur... on va voir s'il va être capable finalement aussi de répéter ses performances dans la Ligue nationale dans un système plus rapide, peut-être dans un système où il faut être plus responsable, où il faut apprendre à gérer finalement son style de jeu, parce que des fois on peut se faire frapper, ou en tout cas on verra comment Connor Bedard va performer dans la Ligue nationale. On peut maintenant parler du deuxième choix de notre top 5. Moi, c'est un joueur que j'aurais aimé peut-être voir être repêché par les Canadiens si le Canadien avait pas eu le premier choix repêchage l'année dernière. C'est Logan Cooley, l'Américain, qui en 7 parties, lui, a fait 7 buts, 7 passes, donc 14 points. Évidemment, c'est un peu moins que Connor Bedard, mais c'est le meilleur que l'équipe américaine a connu cette année. Qu'en as-tu pensé, toi, de Logan Cooley?
J'ai bien aimé sa performance. Il a commencé un petit peu lentement, mais il est vraiment parti sur un rythme intéressant. Exactement, le choix de troisième choix au total des Coyotes de l'Arizona l'année dernière. Donc, une excellente performance pour lui. Si on passe à notre troisième choix, j'ai mentionné son nom tout à l'heure, le défenseur David Jiříček.
Ouais.
Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, c'est un Tchèque. donc, le choix de repêchage, sixième au total des Blue Jackets de Columbus l'année dernière, avec 3 buts, 4 assists. Donc, 7 points en 7 matchs pour lui, points par match pour un défenseur. C'est toujours excellent. Aussi vraiment important pour la défensive de l'équipe tchèque. Il a vraiment fait une bonne impression. Donc, c'est notre troisième choix là, dans notre top 5.
le quatrième choix, qui est un choix de cinquième ronde du Canadien. Un vol. On verra, encore une fois, comme j'ai dit pour Bédard, si le joueur dont je parle en ce moment va pouvoir finalement transférer ses skills dans la Ligue nationale. Je parle de Joshua Roy. On a beaucoup parlé de Connor Bédard, d'Adam Fantilli ou encore de Dylan Gunter, mais on n'a pas beaucoup parlé de Joshua Roy qui, en 7 matchs, a fait 11 points. Habituellement, si un joueur fait ça dans la Ligue nationale, c'est assez impressionnant. Donc, contre des joueurs de son âge, c'est aussi impressionnant, mais va falloir voir si ça peut continuer et finalement... se réaliser dans la Ligue nationale.
Absolument. Moi, j'ai été beaucoup impressionné par la responsabilité de Joshua Roy. Comment il a réussi à être un joueur responsable sur la glace. J'ai pas vu des jeux nonchalants. J'ai vu un joueur qui était responsable, qui était discipliné, qui contrôlait bien la rondelle, qui prenait des bonnes décisions sur la glace. Puis ultimement, ça l'a vraiment aidé le Canada dans son tournoi. C'est d'ailleurs lui qui a fait la passe à Dylan Gunter sur le but en prolongation contre les Tchèques.
Ben, c'est un joueur qui jouait beaucoup avec Connor Bédard. Donc, tu dois être responsable.
Absolument.
Il y a une façon de jouer avec des joueurs comme ça parce que on le sait qu'il va mener le jeu, qu'il va être dominant. Après ça, il faut s'adapter quasiment à son style de jeu. C'est pas tout le monde. C'est comme jouer avec Sidney Crosby. C'est comme jouer avec McDavid. C'est pas des joueurs qui, on va dire, jouent comme tout le monde. C'est quelqu'un qui domine le jeu quand il va sur la glace. Donc, il faut s'adapter. Joshua Roy, comme tu l'as bien expliqué, semblait être bien capable de, finalement, s'adapter à Connor Bédard. On va maintenant passer à notre dernier choix du top 5 des joueurs qui ont été remarqués lors du championnat mondial junior. Je te laisse le nommer.
Pour notre cinquième choix, on a choisi, je l'ai mentionné lui aussi un petit peu plus tôt, Simon Nemets de la Slovaquie. Un but, 4 passes en 5 parties pour un défenseur qui jouait pratiquement la moitié des parties.
Ouais.
À chaque partie pour la Slovaquie, il était vraiment important pour cette équipe-là. Donc, c'est notre cinquième joueur, mais on a aussi plusieurs mentions spéciales pour le tournoi mondial junior.
Oui, mais je veux juste faire un petit recap.
Oui.
Là, on a parlé de nos surprises de tournoi, donc la Tchéquie et la Slovaquie, deux équipes qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi dominantes.
Exactement.
Qui ont donné tout du fil à retordre au Canada. Là, on vous a donné notre top 5, je vais le dire rapidement. Numéro 1, Connor Bédard. Deuxième, Logan Cooley. Suivi de David Jiříček, Joshua Roy et Simon Nemets. Là, maintenant, on parle des mentions spéciales parce qu'on ne peut pas toutes les mettre dans notre top 5. Il y a plusieurs joueurs dont on veut nommer. Moi, je parlerais des deux gardiens qui ont joué la finale. Donc, le gardien du Canada, Thomas Milic. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Oui.
Mais il n'a pas été encore repêché. Donc, peut-être à surveiller lors du repêchage 2023. Et Adam Gajan, je ne sais pas non plus comment le prononcer, mais c'est un gardien tchèque qui n'est, lui non plus, pas repêché, donc à suivre. Et toi, qui veux-tu mentionner, qui ne fait pas partie du top 5?
Moi, j'aurais trois joueurs à mentionner.
Ouais.
Premièrement, j'aimerais mentionner Jiří Kulič de la Tchéquie. Jiří Kulič est un joueur qui m'a beaucoup impressionné. 7 buts en 7 matchs, donc un but par match, c'est d'excellentes statistiques. Il a vraiment aidé là, la Tchéquie dans le tournoi. Ensuite de ça, on a Leo Carlsson de la Suède, l'attaquant suédois. Qui n'est pas repêché non plus et qui risque de partir, lui, dans le top 4 au prochain repêchage.
Beaucoup le mettent troisième. C'est souvent Bédard, Fantilli, Carlsson.
Exactement. C'est beaucoup le débat entre Michkov et Carlsson pour le troisième rang.
Oui, parce que Michkov, qui est finalement l'attaquant... il y a Connor Bédard, Adam Fantilli et Michkov, mais
exact.
Peut-être que le défenseur Leo Carlsson pourrait partir troisième.
Exactement. Puis, dernière mention spéciale va à Luke Hughes.
Ben oui!
Le défenseur américain que je... Comme Félix l'a mentionné tout à l'heure, le plus jeune frère de Jack et Quinn Hughes, sans aucun doute, un des meilleurs défenseurs, pas encore dans la Ligue nationale, très fortement, probablement le meilleur. Depuis qu'il y en a quelques-uns qui ont gradué, je dirais que c'est probablement lui qui a le si on veut, la position numéro un en termes des prospects défenseurs dans la Ligue nationale, un défenseur extrêmement offensif qui patine excessivement bien.
Ouais.
Donc, le futur, the future is bright.
C'est sûr qu'on va continuer d'en parler de Luke Hughes à tête d'hockey. Là, je vois le temps qui file. Ça fait déjà le temps qu'on a fait notre premier épisode. C'est une heure de podcast d'hockey, mais avant de partir, on veut vous dire quelques actualités en rafale. Entre autres, une nouvelle qui vient de sortir, c'est un ancien Canuck qui a aussi joué pour le Canadien de Montréal, les Devils, les Islanders de New York et les Flyers. Il s'appelle Gino Ogic, marque. C'est un homme fort, donc c'est pas nécessairement un marqueur, mais c'est plus quelqu'un qui va défendre ses joueurs. Il est décédé à l'âge de 52 ans. Il a été repêché en cinquième ronde à Vancouver en 1990 et il a surtout joué ses parties avec justement les Canucks de Vancouver. En 605 parties, il a compté 64 buts, 73 passes, donc c'est pas beaucoup de points, mais attention, 2567 minutes de pénalité. C'est quand même... c'est un homme fort, comme ils disent. On va passer maintenant à une autre nouvelle. Je veux parler du championnat mondial junior féminin. Eh bien, les Canadiennes sont sorties grandes gagnantes. Ils ont remporté la finale assez facilement contre la Suède. C'est une victoire à sens unique. Ça s'est terminé 10-0. Je rappelle aussi que ce championnat a lieu en Suède cette année. Et faut mentionner aussi Caitlin Kremer. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, c'est le temps d'arriver en ville parce qu'avec 4 buts, elle est devenue la nouvelle détentrice du record pour le plus de buts par une Canadienne. Donc 10 buts en 5 parties lui permettent de surpasser Marie-Philippe Poulin qui en avait marqué 8 en 2008. Donc ben justement, si vous connaissez Marie-Philippe Poulin, il y a quelqu'un qui l'a dépassé, elle s'appelle Catherine Kremer.
Ensuite, on a une extension à annoncer dans la Ligue nationale.
Quelqu'un qui a signé?
Oui, l'ancien des Devils du New Jersey, en fait, qui a été repêché 6e au total, ouais. Il y a de ça quelques années. Pavel Zacha, qui a signé une extension avec les Bruins de Boston. 4 ans, 4,75 millions par année. Donc, Pavel Zacha avec les Bruins pour les 4 prochaines années.
On en parlait tantôt, c'est un contrat qui l'avantage peut-être plus qu'avantage son club. Là, c'est beaucoup d'argent pour un joueur qui est très bon, mais 4,75 pour Zacha, c'est peut-être un peu trop.
Je pense que oui. c'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur de middle six, comme on dirait, qui va jouer sur la deuxième, troisième ligne.
Ouais.
A pas trop de points cette année, malgré qu'il a joué la majorité de sa saison avec David Krejci, David Pastrnak. Donc, on verra qu'est-ce que ça réserve pour le futur. Et puis, finalement, le gardien de but, Alex Nedeljkovic, que les Red Wings de Détroit ont signé cet été à un contrat de 2 ans d'une valeur de 6 millions, a été mis au balotage. Donc,
je comprends pas.
Ville-Husso est vraiment parti avec le poste de numéro 1 cette année. Puis, ça va pas très bien pour Nedeljkovic.
Mais donc... pourtant, Nedeljkovic, qui, si je me rappelle bien, qui arrivait de la Caroline.
Oui.
Qui était désigné comme étant le gardien de l'avenir pour oui. Détroit. Et là, l'envoyer au balotage...
Ça va pas très bien. C'est un contrat de 2 ans. On verra s'il y a une équipe qui va mordre à l'hameçon pour l'année prochaine.
Le Canadien, ça serait peut-être le fun.
Peut-être.
Les Devils, le voudrais-tu?
Ouais, je pense pas.
On verra et on en parlera peut-être si une des équipes aura recruté Alex Nedeljkovic. Eh bien, c'est sur ça qu'on se laisse. On se dit à dimanche prochain, 19h, tête d'hockey pour un deuxième épisode. C'est un plaisir, Raphaël.
Même chose pour moi.
On se dit à la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son. The following...